pour avoir des références beaucoup plus complètes sur le cadre réglementaire des étangs, notamment relatif à la création, à la régularisation, voire à la gestion des étangs, je pense que vous pourrez utilement vous référer à un document que j'ai découvert récemment, qui a été réalisé par la DDT 87 en 2009. J'évoquerai également les outils de planification, notamment le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vienne. Pour ce qui est des impacts des étangs sur les cours d'eau, je parlerai particulièrement des impacts sur la qualité physico-chimique de l'eau, des impacts sur le débit du cours d'eau à l'aval, l'impact sur les habitats, l'impact sur la continuité écologique et en fait les impacts sur les peuplements piscicoles. Je commencerai mon exposé par un extrait d'un document qui est le projet d'actualisation des lignes directrices de la politique régionale plan d'eau en Limousin en mai 2010. La réglementation relative au plan d'eau qui a été renforcée en 1999 puis complétée avec la nouvelle loi sur l'eau et mi-aquatique, la LEMA, du 30 décembre 2006 est complexe. Les conditions de son application peuvent donner lieu à une interprétation assez large, ce qui accroît les difficultés rencontrées. Par ailleurs, dès lors que la surface dépasse 1000 m², les étangs sont assujettis à la police de l'eau. Leur création est soumise à déclaration, autorisation et leur exploitation fait l'objet de prescriptions et de contrôles. Concernant le code de l'environnement, je peux préciser que la LEMA a été codifiée aux articles L210.1 à L221 et elle a actualisé la loi sur l'eau de 1992 tout en conservant son objectif général d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, conciliant la diversité des usages de l'eau avec la protection quantitative et qualitative de la ressource. Elle a ainsi renforcé deux mécanismes principaux, la planification, avec comme principaux outils les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, 6 grands bassins hydrographiques au niveau national, dont le bassin Loire-Bretagne et les SAGE. Le mécanisme des IOTA, imposant une autorisation ou une déclaration préalable aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant des effets sur la ressource en eau. Les étangs sont ainsi soumis à déclaration ou autorisation préalable, notamment en fonction de leur niveau de prélèvement. Lorsqu'il est supérieur à 5% du débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ou à 1000 m3 par heure, on est sous le régime d'autorisation. Lorsqu'il est compris entre 2 et 5% de QMNA 5 ou entre 400 et 1000 m3 par heure, on est sur une procédure de déclaration. Un aspect qui peut être pris en compte, c'est la hauteur du seuil de dérivation. Si la différence de niveau d'eau entre l'amont et l'aval est supérieur à 0,5 m, on est dans le cadre d'une autorisation, compris entre 0,2 et 0,5 m une déclaration. Ceci implique que lorsque on a création d'une digue sur cours, on est automatiquement en autorisation. Concernant la superficie, lorsqu'elle est supérieure à 3 hectares, on est en autorisation, compris entre 0,1 et 3 hectares en déclaration. Ce qui peut également jouer, c'est la zone d'implantation de l'étang. Ainsi, en zone humide, si l'étang noie plus d'un hectare de zone humide, on est sous régime d'autorisation, y compris entre 0,1 et 1 hectare, une déclaration. Je vais évoquer maintenant les prescriptions générales applicables aux IOTA relevant de la nomenclature eau, avec notamment quelques exemples, les arrêtés du 27 août 1999 fixant les prescriptions applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration et relevant de la rubrique 3.2.3.0, avec par exemple la mise en place d'un dispositif de moine et le fait également que le plan d'eau doit être agencé pour permettre la récupération des poissons et crustacés. Les prescriptions applicables aux vidanges et aux opérations de vidange de remplissage, ce qui ne s'applique pas aux piscicultures, interdiction de vidange du 1er décembre au 31 mars si les eaux s'écoulent dans un cours d'eau de première catégorie piscicole, concentration moyenne sur 2 heures des eaux de rejet ne doivent pas dépasser 1 gramme par litre pour les matières en suspension et 2 000 grammes par litre pour l'ammonium, La teneur en oxygène dissous ne doit pas être inférieure à 3 mg par litre. Le remplissage du plan d'eau à partir d'un cours d'eau devra avoir lieu en dehors de la période 15 juin 30 septembre. Également, l'arrêté du 1er avril 2008 relatif aux pisciculture d'eau douce mentionné à l'article L431-6 du Code de l'environnement, avec l'obligation d'implanter à l'amont et l'aval de la pisciculture une grille fixe dont les ouvertures n'excèdent pas 10 mm. L'ALEMA apporte dans son article 89 une nouvelle définition des eaux closes, dont le critère de détermination par rapport aux eaux libres a été précisé par le décret du 15 mai 2007 et une circulaire du 29 janvier 2008. Par ailleurs, l'article R432.5 du Code de l'environnement liste les espèces susceptibles de provoquer des équilibres biologiques dont l'introduction est interdite et donc que l'on doit détruire lors de la capture, avec notamment le poisson-chat et la perche-soleil, ainsi que les écrevisses hôtes que pied blanc, pied rouge, écrevisses des terroirs et pâte grêle. Il est interdit d'introduire des espèces ne figurant pas dans la liste des espèces représentées en eau libre, arrêté ministériel du 14-12-85, mais il peut y avoir des dérogations, notamment je crois pour les sturgeons sibériens. Et dans les autres classes en première catégorie piscicole, en vertu de l'article L436.5 des poissons et des espèces suivantes, un brochet, perche, cendre et black bass. Une autre procédure d'actualité, c'est la révision des classements des cours d'eau. Un bref rappel en disant que les premiers classements des cours d'eau découlent d'une loi de 1865 avec des premiers décrets d'application à partir de 1904. En 1984, face au constat de manque d'efficacité de certains dispositifs de franchissement, passe à poisson, la loi pêche introduit une obligation de résultat d'entretien pour les dispositifs de franchissement, montaison, mais aussi exutoire de dévalaison, d'aménagement des ouvrages existants dans les 5 ans suivant la publication d'un arrêté ministériel fixant les espèces cibles. En 2009, a débuté la procédure de révision des classements introduite par l'ALEMA et déclinée à l'article L214-17 du Code de l'environnement, qui doit aboutir sur deux listes. Liste 1, les cours d'eau à préserver, cours d'eau, tronçons de cours d'eau en très bon état écologique, chimique et biologique, indemne de perturbations anthropiques majeures. Les réserves biologiques, qui sont des cours d'eau ou tronçons de cours d'eau abritant des espèces rares et ou révélatrices d'un bon fonctionnement de milieu, qui jouent un rôle de pépinière, d'où nécessité de libre circulation des organismes aquatiques. Les premières listes ont été définies dans les SDAGE, établies pour la période 2010-2015. Inclus aussi dans cette liste 1, les rivières à forts enjeux pour les poissons migrateurs amphialins, avec notamment les grands axes de circulation des poissons migrateurs et des cours d'eau offrant les meilleures potentialités en termes de reproduction et ou de croissance. Ces axes ont été identifiés dans les plans de gestion des poissons migrateurs et figurent dans les SDAGE. Conséquence réglementaire du classement, tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel que soit l'usage, ne pourra être autorisé. Pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur autorisation sera subordonné à des prescriptions. Les cours d'eau restaurés, liste 2, obligation d'assurer le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs, amphialins ou non. Les conséquences réglementaires, les ouvrages existants sur les canaux, les cours d'eau, canaux, devront être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou à défaut l'exploitant. Ces préconisations pourront concerner des mesures d'équipement, passe à poisson, et des mesures de gestion, par exemple ouverture régulière de vannes. Mise en conformité au plus tard dans un délai de 5 ans après la publication de l'arrêté de classement. En 2011 a eu lieu l'étude d'impact de l'impact potentiel des futurs classements, notamment définition des enjeux écologiques, des gains écologiques, mais aussi une éventuelle perte de productivité pour la filière hydroélectricité. A eu lieu également la phase de consultation des établissements publics territoriaux de bassin, des conseils régionaux et des conseils généraux. Donc l'arrêté de préfet coordinateur de bassin devrait paraître début 2012. La fin des classements actuels interviendra au plus tard le 1er janvier 2014. Enfin, l'aspect sur le règlement des débits réservés, article L214-18 du Code de l'environnement, À compter du 1er janvier 2014, tous les ouvrages existants devront comporter des dispositifs maintenant dans le lit des cours d'eau, un débit minimal biologique, un aval de l'ouvrage, garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Hormis le cas des cours d'eau atypiques, définis à l'article R214 du Code de l'environnement, le DMB ne pourra être inférieur au dixième du module du cours d'eau, le module étant le débit moyen interannuel. Bref, aperçu des outils de planification, le SDAJOAR Bretagne définit des dispositions particulières sur la limitation et, l'encadrement de la création des plans d'eau, avec une justification de l'intérêt économique et ou de l'intérêt collectif, création autorisée en dehors de certaines zones, notamment la zone de répartition des eaux, les réserves biologiques, secteur à forte densité d'étang. Création, régularisation sous réserve des équipements et modes de gestion appropriés, dérivation, période de remplissage adaptée, système de vidange et déversoir, prise en compte du transit sédimentaire. Le SAGVN, approuvé en 2006, est actuellement en cours de révision. On fixe également des objectifs et des préconisations concernant la gestion et la création des étangs en fonction des enjeux identifiés. Deuxième partie, c'est l'impact des étangs sur les cours d'eau. Sur le bassin de la Vienne, la moitié des masses d'eau ont été estimées en 2009 à risque de non-atteinte du bon état écologique et 20% ont été estimées en doute. Les paramètres déclassants sont la morphologie, 73% des cours d'eau déclassés, et l'hydrologie, 65%. Donc l'impact des étangs a un rôle prépondérant dans ce déclassement. Sur la partie droite, donc, c'est les objectifs d'atteindre du bon état écologique pour le bassin de la Vienne, où pour 2015, 70% pardon, des masses d'eau doivent être en bon état écologique. Donc ça illustre tout le travail que l'eau doit réaliser pour atteindre le bon état écologique et les efforts qui restent à faire pour réhabiliter les caractéristiques morphologiques des cours d'eau. Donc, impact sur la température. Quantité physique chimique de l'eau, avec quelques éléments ont déjà été évoqués ce matin, la température, certains auteurs rapportent un réchauffement de 3 à 7 degrés à la fin du printemps et l'été, entre l'amont et l'aval pour un étang doté d'un système de surface, inférieur à 4 degrés et limite à 3 mois lorsque l'étang est doté d'un moine, y compris entre 1,5 et 3 degrés pour des étangs en dérivation. L'oxygène dissous. La teneur est plus faible à l'aval du plan d'eau du fait du réchauffement de l'eau, de l'inertie de la masse d'eau et de la dégradation de la matière organique. Le pH, on note généralement une faible augmentation, environ 0,5 unités, liée notamment au mécanisme de la photosynthèse. Des valeurs de pH importantes, aggravées par une augmentation de la température et une faible teneur en oxygène, entraînent une modification de la forme d'azote ammoniacal vers la forme non ionisée, l'ammoniac. Toxique pour les poissons. Concernant les nutriments, une partie des nutriments, notamment l'azote et le phosphore, est assimilée par la chaîne trophique de l'étang, ce qui réduit le flux vers l'aval. Mais il y a un risque de développement excessif de la végétation, avec diminution sensible à la teneur en oxygène lors de sa décomposition et de leur relargage lors des vidanges. Impact sur le débit des cours d'eau. Quelques chiffres sur l'évaporation. Diverses études convergent vers une évaporation moyenne estivale de 0,5 litres par seconde et par hectare. Des chiffres sont cités de 0,4 à 0,6 litres par seconde et par hectare, soit 22 à 38 mm par semaine pour 3 étangs creusois, d'après l'étude du CMRF de Bordeaux. Dans la Vienne, l'évaporation a été estimée à 0,53 litres par seconde et par hectare. Champagne-Ardenne, bien plus au nord, on cite un chiffre de 0,55 litres par seconde et par hectare. Il faut préciser que par forte chaleur, on peut atteindre des pics de 4 litres par seconde et par hectare. Des pics. Quelques chiffres sur les infiltrations et les fuites. Donc, des chiffres qui sont rapportés dans une étude. 0,5 à 0,7 mm par jour. 5 à 7 mètres cubes par hectare et par jour. Pour un étang sur substrat argileux, dont une partie n'est pas restituée à l'aval immédiat du plan d'eau. Certains États participent à la régulation des crues. Cette régulation, par définition, a des effets positifs. Elle peut aussi avoir des effets négatifs en privant le cours d'eau à l'aval de ce qu'on appelle les crues morphogènes. Il nettoie notamment les cours d'eau. Les crues morphogènes, on estime les crues morphogènes à partir de 2 fois le débit moyen interannuel. Impact sur les habitats, avec notamment la disparition au droit de l'étang des zones courantes, voire des zones humides, et un impact très fort des étangs mal gérés ou faisant l'objet des vidanges irrégulières et ou mal maîtrisés, induisant comme attache du lit du cours d'eau à l'aval. Ici, un exemple sur un affluent de la Gartempe, où les teneurs en matière en suspension ont atteint 10 grammes par litre. Avec différents clichés pris, un impact très fort jusqu'à la confluence de la Gartempe à 9 km en aval. On voit même l'impact sur la rivière Gartempe elle-même. Un autre exemple de vidange d'un étang en Creuse, où on peut apercevoir, je ne sais pas si je vais réussir à indiquer, un individu des crevisses de Californie, Passivastacus linisculus. Un exemple d'érosion de sédiments pendant la vidange et aussi en période d'assec, lors d'orage, d'un étang situé sur le bassin de la Petite Creuse. Un exemple de vidange sur le bassin du Véreau, qui indique qu'on aurait pu, peut-être en prenant un peu plus de précautions, éviter, disons, le départ massif des vases vers le cours d'eau en stockant en partie sur une prairie située à la bas de l'étang. Donc impact sur la continuité écologique. Continuité écologique est une notion qui a été introduite en 2000 par la directive cadre européenne, définie comme étant la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, ainsi que le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques. Les seuils et barrages induisent une fragmentation des écosystèmes aquatiques qui contribuent à l'érosion de la biodiversité, notamment des poissons migrateurs, facteur de risque de non-atteinte du bon état écologique. La libre circulation est impérative pour l'accomplissement du cycle vital du poisson migrateur amphialin, notamment le saumon, la lamproie marine, mais aussi l'anguille. Donc saumon et lamproie marine sont des espèces potamotoques, et l'anguille, une espèce thalassotoque, pardon, qui se reproduit en mer. Mais la continuité écologique pour sa restauration est également nécessaire pour éviter l'isolement des populations dites sédentaires comme le brochet ou la truite commune, qui peuvent effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour aller rejoindre les zones de reproduction. Un piégeage excessif des sédiments grossiers à l'amont d'un obstacle entraîne un déficit de substrat favorable à la vie et à la reproduction des espèces aquatiques, notamment les invertébrés et les poissons, ici des œufs de truite. Des alevins également de truites, résorption vésiculée, pardon. Et donc ce piégeage excessif entraîne également un déséquilibre hydromorphologique du cours d'eau à l'aval, parfois un enfossement du lit. L'impact sur les peuplements piscicoles. Donc l'impact peut se faire sentir à l'amont de l'étang, avec des migrations de poissons vers l'amont. Normalement, à l'amont, on trouve surtout dans les têtes de bassin de la truite, des espèces d'accompagnement comme le chabot, le véron, la loche. Un peuplement artificiel dans l'étang, par exemple le gardon et la brème. Préciser quand même que l'étang peut également avoir des effets bénéfiques, notamment avec la présence d'espèces comme la cistude d'Europe. C'est des sites parfois privilégiés de reproduction de la grenouille rousse. On note également la présence de tritons, notamment le triton marbré. À l'aval immédiat de l'étang, on a souvent ce qu'on appelle un peuplement dégradé, avec la disparition de la truite et ou des espèces d'accompagnement. Plus en aval, on a souvent des peuplements perturbés avec la disparition ou la régression de populations de truites ou de ces espèces d'accompagnement. Une étude statistique menée sur 26 stations en Limousin sur 4 années a montré que des peuplements, on avait une dégradation, une perturbation des peuplements jusqu'à au moins 1,5 km des plans d'eau. Un exemple de peuplement dégradé, le Vincou à Touron. La station se situe à 400 mètres à l'aval d'un étang de 13 hectares, où on note la disparition de la truite et des espèces d'accompagnement et la présence d'espèces susceptibles de créer des équipes biologiques dans la perche commune et le poisson-chat, ainsi que la présence de la brème. Autre exemple, c'est la Voueize à l'aval de Gouzon, avec là aussi l'absence de la truite et du chabot. Et la présence de la perche soleil et de la bouvière. Un exemple de cours d'eau perturbé, peuplement perturbé, le Cherpon en Sainte-Fer, où on a une régression de la population de truites et l'apparition du gardon et de la perche commune. Un autre exemple, dans une autre région, donc sur Lyon, la région de Thavenay, fortement influencée par les étangs, on note un déficit de truites communes et de vairons, et la présence d'espèces caractéristiques des zones plus en aval, notamment le brochet, la perche, le gardon et la brème. Merci de votre attention. Et je reste sur une image positive des étangs.